Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. En finir avec le règne de l'illusion financière de Jacques de la Rosière est un essai d'économie et de politique publique consacré aux effets de la financiarisation sur la croissance. Fort de son expérience à la tête de grandes institutions monétaires et financières, l'auteur propose un diagnostic critique des deux dernières décennies. Marquée par l'envol des valorisations d'eau d'actifs, l'accumulation des dettes et l'affaiblissement de investissements productifs. Le livre met en avant l'idée qu'une partie de la prospérité affichée relève d'une illusion. Entretenue par des politiques monétaires durablement très accommodantes et par une confiance excessive dans la hausse des prix d'actifs comme substitut à la création de richesses. Réelle. Sans s'inscrire dans une approche technique réservée aux spécialistes, l'ouvrage vise à clarifier les mécanismes qui relient monnaie, crédit, endettement et croissance. Il cherche surtout à réorienter le débat vers les ressorts fondamentaux de la prospérité durable, en invitant à revoir les incitations et les cadres de action des politiques économiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le décalage entre richesse financière et économie réelle. Un axe central du livre consiste à décrire la divergence croissante entre la progression des actifs financiers et immobiliers et la dynamique de l'économie réelle, mesurée par la production et les revenus issus de l'activité productive. La Rosière explique que la hausse des prix d'actifs peut donner une impression de prospérité, car elle augmente la valeur des patrimoines et facilite l'accès au crédit, mais qu'elle ne se confond pas avec la création durable de biens et de services, lorsque les valorisations montent plus vite que la capacité à produire et à innover. La croissance apparente devient fragile et plus dépendante des conditions de financement que des gains de productivité. Ce décalage modifie aussi l'allocation des ressources. En attirant capitaux et talents vers des activités de valorisation et d'eau d'arbitrage plutôt que vers un investissement à long terme. L'auteur insiste sur le fait que cette situation accroît la vulnérabilité du système, car la stabilité repose davantage sur la confiance dans les prix d'actifs et sur la poursuite d'un crédit abondant. La question clé devient alors comment restaurer une croissance ancrée dans l'investissement productif et la compétitivité plutôt que dans la simple inflation des bilans. Deuxièmement, endettement mondial et fragilité systémique. Le livre met en relation la montée de la dette, publique comme privée, et la dynamique de la financiarisation. La Rosière souligne que l'endettement s'installe comme une réponse récurrente à la faiblesse de la croissance et aux crises, au point de devenir une caractéristique structurelle des économies développées. Dans ce cadre, le crédit abondant soutient la demande à court terme et favorise la hausse des actifs. Mais il peut aussi entretenir des comportements de surinvestissement dans un immobilier ou de prise de risque financière, tout en repoussant les ajustements nécessaires. Plus la dette augmente, plus la sensibilité au taux d'intérêt devient forte, ce qui peut enfermer les autorités dans une logique de maintien de conditions financières très souples. L'auteur attire l'attention sur les risques d'instabilité associés à cette trajectoire, notamment lorsque les dettes se renouvellent dans un contexte de hausse des taux ou de ralentissement économique. Il insiste également sur l'effet de déviction possible, quand l'accumulation de dettes et la recherche de rendement orientent l'épargne vers des usages moins productifs. La démonstration vise à rappeler qu'une économie ne peut durablement s'appuyer sur l'extension du levier financier sans exposer sa résilience et sa capacité de croissance réelle. Ou troisièmement, le rôle des banques centrales et la suraccommodation. La Rosière consacre une part importante de son analyse aux politiques monétaires des dernières décennies. Il critique l'installation d'un régime durable de taux très bas, parfois négatif en termes réels, et l'usage de mesures non conventionnelles qui ont accru l'empreinte des banques centrales sur les marchés, selon lui. Ces choix ont pu être justifiés par des circonstances de crise, mais leur prolongation a contribué à gonfler la masse monétaire et à soutenir de manière disproportionnée les prix d'actifs. L'auteur met aussi en discussion la manière dont les objectifs et les pratiques des banques centrales ont évolué, avec une attention qui ne se limite plus à la stabilité des prix au sens strict, mais qui intègre la stabilisation financière et le soutien à l'activité. Il souligne qu'une telle extension implicite de mission peut brouiller les responsabilités et créer des effets secondaires, notamment une prise de risque accrue et un affaiblissement de la discipline de marche. Le propos ne se limite pas à une condamnation. Il vise plutôt à poser la question des cadres d'action adéquats pour éviter que la politique monétaire ne devienne un substitut permanent aux réformes structurelles et à elles, investissement productif. Le point clé est la compatibilité entre prix de l'argent et besoin de l'économie réelle. Quatrièmement, allocation du capital et investissement productif. Un autre thème fort porte sur la manière dont la financiarisation influence l'orientation de l'épargne et du financement. La Rosière soutient que des conditions monétaires trop accommodantes et une focalisation sur la performance à court terme peuvent encourager des arbitrages qui privilégient l'achat. Rentabilité immédiate, l'endettement facilite et la valorisation des actifs au détriment de projets d'un investissement de long terme. Dans cette perspective, La croissance réelle requiert des incitations et des règles qui favorisent la formation de capital productif, l'innovation, la modernisation industrielle et amélioration de la productivité. L'auteur insiste sur l'importance de l'épargne comme ressource à mobiliser, non pas pour alimenter une spirale de prix d'actifs, mais pour financer l'économie productive. Il met également en avant l'idée que le prix du capital, donc le niveau des taux et la perception du risque, joue un rôle d'aiguillage essentiel dans l'allocation des ressources. Si ce signal est durablement faux, le système peut surfinancer certains secteurs et en sous-financer d'autres, avec des conséquences sur la compétitivité et l'emploi. L'objectif de l'argumentation est de replacer au centre la question de la création de valeur réelle et de la capacité de toute une économie à transformer l'épargne en investissement. Utile plutôt qu'en accumulation de dettes et de valorisation fragile. En dernier lieu, conséquences sociales et politiques de l'illusion financière. Le livre aborde les implications sociales d'une économie dominée par la hausse des actifs et par l'expansion du crédit. Larousière souligne que lorsque la richesse patrimoniale progresse plus vite que les revenus du travail, les écarts peuvent se creuser entre les détenteurs d'actifs et ceux qui en possèdent deux. La dynamique des bulles d'actifs peut ainsi favoriser les agents déjà bien inscrits dans les marchés financiers ou immobiliers, tandis que les ménages dépendant des salaires subissent davantage la stagnation des revenus et la hausse des coûts de taxes au logement. L'auteur relie ces tendances à des risques de fragmentation sociale et de contestation politique. Car la perception d'une prospérité inégale fragilise la confiance dans les institutions et dans les choix de politique économique. Il insiste aussi sur le fait que la stabilisation par la monnaie et le crédit ne remplacent pas une stratégie de croissance fondée sur la production, l'emploi et la productivité. En filigrane, il plaide pour une remise en cohérence des politiques publiques afin de limiter les effets de rente, de restaurer un environnement plus favorable à l'investissement réel et de réduire la dépendance collective à l'endettement. Cette dimension donne au livre une portée qui dépasse la technique financière, en le reliant à la soutenabilité du contrat social et à la qualité du débat démocratique autour des choix monétaires et budgétaires. En conclusion, cet ouvrage s'adresse en priorité aux lecteurs qui veulent comprendre pourquoi la croissance paraît souvent découler de la hausse des actifs plutôt que de l'augmentation de la basse production et pourquoi les crises semblent se succéder malgré des interventions monétaires massives, les professionnels de la finance, les économistes, les cadres du secteur public et les étudiants. Ils trouveront un cadre de lecture structure, centré sur les liens entre monnaie, crédit, endettement et allocation du capital. Un lecteur non spécialiste peut aussi en tirer profit, à condition d'accepter une approche macroéconomique qui privilégie les mécanismes et les enchaînements plutôt que les recettes simples. L'intérêt pratique est double. D'une part, le livre aide à mieux évaluer les limites d'une prospérité fondée sur l'inflation des bilans et sur le maintien artificiel de conditions de financement. D'autre part, il remet au premier plan la question de la croissance réelle, celle qui provient de l'investissement productif, de la productivité et d'une meilleure orientation de l'épargne. Par rapport à d'autres essais sur la finance, il se distingue par une critique articulée autour de l'expérience d'un ancien dirigeant d'une institution majeure, et par une volonté de relier les choix des banques centrales aux effets concrets sur l'économie productive et la cohésion sociale. Il s'en dégage un appel à rééquilibrer le système pour limiter l'illusion financière et restaurer des fondations plus solides de prospérité. Si vous souhaitez soutenir Jacques de Larousière, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.